France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Des représentants palestiniens déclarent qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu cette nuit avec Israël sous la médiation de l'Égypte. Une trêve qui a pris effet selon un représentant palestinien à 3h30 tout à l'heure. Des centaines de roquettes tirées depuis la bande de Gaza vers Israël ont fait 4 morts hier, tandis que 19 Palestiniens, dont la moitié de civils, ont été tués dans la journée par les bombardements israéliens. Hier soir, le président américain assurait soutenir entièrement Israël face aux tirs palestiniens. Les États-Unis qui déploient par ailleurs des bombardiers au Moyen-Orient en guise d'avertissement envers l'Iran. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, n'a pas été plus précis que cela hier soir. La Chine envisage d'annuler les discussions commerciales prévues cette semaine avec les États-Unis. Le Wall Street Journal, en tout cas, l'affirme ce matin. Pékin réagirait ainsi après l'annonce de Donald Trump. Il souhaite relever les droits de douane imposés sur les produits chinois importés. Les relever à partir de vendredi prochain à hauteur de 25% au lieu de 10%. Dans l'actualité de ce lundi matin, notons également l'identification du corps retrouvé au Burkina Faso hier. Il s'agit bien du guide des deux Français disparu la semaine dernière au Bénin. Il a été tué par balle, sa voiture a été retrouvée incendiée. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé aux deux touristes français. Ils visitaient le parc naturel de la Penjari. Le Rassemblement national passe devant l'Alliance La République En Marche et le Modem, selon un sondage à 3 semaines des européennes. Sondage Ipsos Soprasteria pour France Télévisions et pour Radio France, le premier du genre à l'aube des élections. Les deux partis sont au coude à coude à 22 et 21,5% des intentions de vote. Suivent les Républicains avec 13,5% des intentions de vote. Europe Écologie Les Verts est stable à 8,5% et la France Insoumise gagne un point. Et puis ce procès attendu qui s'ouvre aujourd'hui, procès de France Télécom pour harcèlement moral à grande échelle. Le groupe français est accusé d'avoir mis en œuvre un plan entre 2006-2010 pour réduire ses effectifs de 22 000 personnes. Un plan soupçonné d'être à l'origine d'une vague de suicides dans l'entreprise.
France Culture et le Centre Pompidou vous invitent au week-end Imagine. 2 jours de marathon radiophonique, de débats, de masterclass et de performances ouverts à tous. Quelle histoire ? C'est le thème de cette 4e édition. Un festival de rencontres et d'échanges qui vous fera voyager dans le temps, de la préhistoire jusqu'à la fin du monde. Avec notamment les historiens Patrick Boucheron, Marilène Patoumatis, Pape Ndiaye, les scientifiques Yves Coppens, Étienne Klein, les artistes Gloria Friedman, Sébastien Salgado. Le week-end Imagine, les 11 et 12 mai, en public au Centre Pompidou à Paris et sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr, centrepompidou.fr et sur les réseaux sociaux.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Mon invité ce matin est l'académicien Amin Malouf, qui a été longtemps journaliste dans une région du monde secouée plus que les autres par les soubresauts de l'histoire du XXe siècle. Dans son dernier livre, « Le naufrage des civilisations », édité chez Grasset, l'essayiste levantin, comme on ne dit plus aujourd'hui, replonge dans sa propre histoire pour analyser avec le recul des années comment le monde a changé, comment les utopies se sont transformées en cauchemars et les raisons du succès des révolutions conservatrices. Un livre à lire de toute urgence et surtout à quelques jours des élections européennes dont on ne mesure toujours pas l'importance cruciale. Un regard lucide sur notre époque donc avec Amin Malouf ce matin dans le Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, assistée de Maël Ray, avec ce matin à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Lionel Quentin.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه
C'était le 9 juin 1967. Le président égyptien Nasser annonce sa démission à l'issue de la guerre des six jours avec Israël. Et plus qu'une défaite, c'est une humiliation dont le monde arabe ne se relèvera pas. C'est ce que vous nous dites, Amin Maalouf. Bonjour.
Bonjour.
Dans le naufrage des civilisations qui paraît chez Grasset, vous dites que depuis, le monde arabe ne s'est pas relevé.
Je me souviens d'ailleurs de ce discours, je l'avais écouté à ce moment-là, et c'était un coup de massue, réellement, un coup de massue. Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là, c'était un vendredi, je devais recevoir les résultats de mon premier examen à l'université, j'avais 18 ans à l'époque, et ça devait sortir le 9 juin.
Et c'est incroyable ce qui s'est passé.
J'avais oublié.
Non, parce j'avais que vous êtes allé, vous avez vu la liste, et vous avez oublié si vous étiez admis ou pas.
Absolument, j'ai vu la liste, j'ai vu mon résultat, et je suis sorti de l'université en ayant oublié si j'avais réussi ou échoué. C'est dire à quel point la confusion mentale, ce jour-là, était énorme dans le pays, et un peu dans toute la région arabe.
Alors pourquoi vous dites que ce moment-là est très crucial pour tout le monde arabe et tout ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui à tous les pays arabes, à tous les pays de la région, à avoir avec cette défaite?
Ça aurait pu ne pas avoir cette importance, mais la chute de Nasser, la chute au sens de défaite, puis en plus il est mort 3 ans après sans avoir jamais pu reprendre sa revanche, a été la fin d'une époque et le début d'une autre. La fin d'une époque parce que du temps de Nasser, l'idéologie dominante dans le monde arabe, c'était le panarabisme, le nationalisme arabe qui était personnifié par Nasser. Et la défaite de Nasser en 67 a signifié la fin de cette idéologie qui depuis n'a cessé de péricliter jusqu'à pratiquement disparaître, et la montée d'une autre idéologie qui l'a remplacée et qui était fondée sur la religion. Et dans le monde arabe, beaucoup de gens ont essayé de remplacer Nasser, de prendre sa place, de devenir le héros du monde arabe. Il y a Kadhafi, il y a eu Saddam Hussein et beaucoup d'autres. Personne n'a réussi. Personne n'a jamais pu avoir la popularité de Nasser. Et le monde arabe, je dirais qu'il est encore orphelin de Nasser. Souvent sans le savoir, d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas, évidemment, de cette époque-là. Il y a des gens qui ont rejoint des mouvements qui étaient très hostiles à Nasser. Nasser est arrivé au pouvoir avec un conflit très grave avec les frères musulmans. Et il a pu s'imposer aux frères musulmans, et sa défaite est apparue comme une victoire des frères musulmans qui ont pu dire à ce moment-là, regardez, cet homme qui vous a emmené dans cette direction, c'était un enchanteur, mais il vous a berné. Et c'est ce qui s'entendait à partir de 67 dans la région, et Nasser a perdu peu à peu sa crédibilité, ce qui est aujourd'hui paraît évident, mais du temps de sa gloire, on avait l'impression qu'il était là pour des générations, qu'il a laissé un héritage extraordinaire. Et en fait, il ne reste plus grand-chose.
Alors, il y avait un monde arabe avant Nasser, et avant ce 9 juin 67, et un autre après. Et vous dites aussi, dans le naufrage des civilisations, Amin Maalouf, qu'il y avait un monde avant l'arrivée de Margaret Thatcher et la révolution iranienne, ces deux révolutions conservatrices qui ont beaucoup changé le cours du monde du XXe siècle, du monde présent. Vous racontez ça et vous n'oubliez pas de dire, puisque c'est quand même un récit très subjectif, où vous racontez aussi votre jeunesse, où vous racontez l'histoire de votre famille, vous rappelez à chaque fois à quel point c'est complexe. Par exemple, pour revenir sur Nasser, c'est tout à la fois ce président, ce leader arabe que vous admiriez à l'époque où vous étiez étudiant, et pourtant c'est l'homme qui a causé quand même le malheur de votre famille.
C'est vrai, parce que la famille de ma mère était installée en Égypte depuis la fin du 19e siècle, et l'arrivée de Nasser au pouvoir s'est traduite par une expulsion, en réalité, disons qu'il les a poussés vers la sortie. Tous ceux qui n'étaient pas des Égyptiens de de souche ont été poussés vers la sortie avec le triomphe de la révolution nassérienne. Je le compare à un moment donné à Mandela, qui a mené un combat contre une minorité qui dominait le pays. Et puis, dès qu'il a gagné la bataille, il est allé leur demander de rester au pays parce qu'il a estimé qu'ils étaient indispensables au pays. Nasser n'a pas eu le même comportement. C'est peut-être un peu dû au tempérament de l'un et de l'autre, mais c'est surtout dû, je dirais, à l'époque. Nasser était à une époque où on avait le sentiment que le colonialisme était encore là, qu'il pouvait revenir. On avait assisté à la chute de Mossadegh en Iran, au retour du Shah. Et donc, il y avait le sentiment qu'il fallait couper une fois pour toutes avec le passé. Ça s'est traduit en réalité par des souffrances et pour le pays, et puis pour commencer, pour toutes ces communautés qu'on appelait à l'époque les égyptianisées, dont la famille de ma mère, qui était là depuis des générations, qui se sentaient égyptiens, en fait, mais qui, en réalité, avaient un statut un peu différent de celui des Égyptiens. Et ce statut a suscité beaucoup de ressentiments et a conduit finalement à la disparition de ce modèle.
Et jusqu'à aujourd'hui, Amin Maalouf, votre relation avec le président Nasser est assez ambiguë.
Il y avait en lui le meilleur et le pire. Il avait certainement incarné les espoirs de la région. C'était certainement un homme profondément intègre, qui était totalement dédié à son combat. Il avait un projet national. Et en même temps, il a voulu gouverner par un parti unique. Là encore, c'était l'esprit de l'époque. Il a voulu contrôler la presse, contrôler les maisons d'édition. Il a donné une importance excessive aux services secrets qui étaient infiltrés partout. Donc sa manière de gouverner était pour le moins contestable. Sa politique économique était fondée sur un dirigisme un peu de type soviétique, très bureaucratique et qui a mené à la ruine. Il y avait les deux aspects.
Là, pour l'instant, c'est plutôt le mauvais côté de Nasser que vous nous développez.
Le bon côté, c'est qu'il a dit au peuple, relevez la tête. Il a donné véritablement aux gens le sens de la dignité. Ils avaient l'impression d'avoir recouvré leur dignité. Pendant très longtemps, l'Égypte était dominée par les Britanniques, qui contrôlait le canal de Suez, qui avait des troupes, qui intervenaient de temps à autre pour forcer le roi à installer un gouvernement à la place d'un autre. Et les gens vivaient cela très mal. Et lui, il est arrivé et il a mis les Britanniques dehors. Et les gens étaient contents de voir les puissances coloniales mises dehors. Et quand il a nationalisé le canal de Suez en 56 et qu'il y a eu une attaque militaire anglo-franco-israélienne contre l'Égypte et qu'il est sorti politiquement gagnant de ce conflit, il est devenu véritablement l'idole. Il donnait l'impression de pouvoir gagner. Il redonnait aux Arabes une place sur la scène internationale. C'était une figure considérable sur la scène internationale. Et donc il y avait les deux aspects. C'était une grande figure. Et en même temps, c'était son gouvernement pêché tant par l'aspect dictatorial que par l'aspect d'incompétence.
Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde arabe, Amin Maalouf, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qui se passe en Algérie, en Tunisie, les promesses d'un printemps arabe qui se sont transformées soit en cauchemar, soit en guerre, soit en retour en arrière, pour parler encore une fois de l'Égypte, mais qui laisse apparaître quand même beaucoup d'espoir, en tout cas un peu plus d'espoir que le statu quo d'il y a quelques années.
Ce qu'on a appelé le printemps arabe était un phénomène intéressant. Je pense qu'au début, les gens qui ont mené le mouvement voulaient sincèrement des changements tout à fait légitimes et voulait moderniser la société. Ça aurait mérité de réussir, mais quand on fait le bilan aujourd'hui, il a été assez désastreux. La plupart des pays qui ont été impliqués dans le printemps arabe ont connu des retours de bâton très durs, et souvent, le plus souvent, la situation actuelle n'est pas meilleure qu'avant. Ce que vous dites de l'Algérie, et j'ajouterai du Soudan, c'est intéressant. Il y a des populations qui se comportent d'une manière responsable, qui ont le sentiment d'être souveraines, qui ont des aspirations extrêmement nobles. Alors, à mon avis, on peut regarder cette évolution avec espoir, mais dans cette région, l'espoir est souvent déçu. J'espère que cette fois, il ne le sera pas.
Oui, mais cette fois-ci, on ne cherche pas l'homme providentiel. Est-ce que vous pensez que la page du grand leader sauveur de la nation arabe est définitivement tournée?
Je pense que l'homme providentiel était un moment dans l'histoire. Je ne pense pas que ça ait fait beaucoup de bien à la région.
Et pourtant, je pense. Lasserre incarnait cet homme providentiel.
Il l'a incarné. C'était un moment de l'histoire. Je pense que le monde arabe d'aujourd'hui n'est pas en mesure de produire un homme providentiel. Je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne chose qu'il y ait un homme providentiel. Si on pouvait bâtir dans un certain nombre de pays arabes, d'abord l'état de droit et un peu de démocratie, de liberté pour commencer, et moderniser les sociétés, je crois que ce serait une excellente chose. On n'a pas besoin d'une nouvelle expérience nassérienne.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
La grande Fayrouz, c'est pour vous, Amine Malouf. Ça vous plaît d'ailleurs de
c'est une superbe chanson.
Ouais.
Qui dit je t'ai aimé en été, je t'ai aimé en hiver.
Ouais.
C'est écrit par un bon ami à moi avec qui j'ai travaillé longtemps dans le journalisme, qui était un Sirhaj.
Amine Malouf, dans le naufrage des civilisations, vous ne parlez pas seulement de cette période, hein, c'est-à-dire de l'histoire de votre famille, de comment le Levant va disparaître avec sa particularité, avec ses sociétés cosmopolites. Vous parlez aussi du reste du monde. Et pour vous, il y a une année du grand retournement, c'est l'année 1979, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et puis la révolution iranienne. Pourquoi ces deux événements, pour vous, sont très importants et fondateurs du grand changement du monde ?
Dans ce livre, j'ai voulu passer en revue les événements des dernières décennies pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et il y a une année qui m'est apparue décisive. C'est effectivement 1979. Il y a eu deux événements majeurs et quelques autres. Un événement, c'était effectivement la révolution iranienne, qui marquait la fin de l'évolution qui a suivi la défaite de Nasser vers un monde arabo-musulman où l'idéologie dominante est fondée sur la religion. Et le triomphe de la révolution iranienne en février 1979, c'était ce moment-là, et ça a eu des conséquences dans les années suivantes. En Occident, il y a eu un phénomène qui s'est passé 3 mois après, en mai 1979. C'était l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, avec une nouvelle conception de la politique, de l'économie, du rôle de l'État, qui a complètement rompu avec ce qu'il y avait avant. Avant, on avait, pour dire les choses rapidement, l'idée d'un État-providence qui allait aider à atténuer les tensions sociales. Elle a rompu avec cela. Et elle a appelé ce changement, sa révolution conservatrice. Un an après, c'était Reagan qui gagnait aux États-Unis et qui allait faire la même chose. Et peu à peu, cette manière de gouverner, cette nouvelle manière de gouverner, s'est répandue à travers le monde. La conséquence du premier événement que j'ai évoqué, c'est qu'il a attisé les tensions identitaires un peu partout à travers le monde. Les conséquences du second événement, c'est qu'il a attisé les tensions sociales un peu partout à travers le monde. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est très morcelé, je dis même tribalisé, sous l'effet de ces deux facteurs, les tensions identitaires et les violences qu'elles ont engendrées, et les tensions sociales liées à la disparition du principe d'égalité comme référence morale et au sentiment qu'ont des gens de plus en plus nombreux à travers le monde, et notamment dans le monde développé en Europe et aux États-Unis, de sentiment d'être laissés pour compte et de n'avoir pas leur part dans la prospérité.
Alors, vous parlez de la fin aussi du bloc soviétique. Vous ne parlez pas de la Yougoslavie, en tout cas pas très profondément, alors que ça aurait pu trouver cette place dans votre analyse, Amin Malouf, de ce que vous appelez la tendance au morcellement et à la tribalisation qui se vérifie un peu partout, d'une manière très dramatique dans les pays du Sud, les pays arabes d'une manière très particulière. Mais vous dites, on voit ça partout.
Notamment en Europe, c'est-à-dire l'Europe devait être l'exemple d'une région qui s'unit. Et effectivement, l'Europe a rompu avec les querelles du passé pour bâtir l'avenir ensemble. Et pendant quelques décennies, on a eu le sentiment que les choses évoluaient dans cette direction. Et à mon avis, c'était le projet le plus prometteur.
C'est ce que vous dites, c'était le projet qui portait le progrès.
J'hésite encore à en parler au passé, parce que le projet est toujours là, sauf qu'il est en difficulté, il a besoin d'être sauvé aujourd'hui.
Ouais, mais sauf que vous dites, j'attends autre chose de mon continent d'adoption, l'Europe, c'est-à-dire j'attends que l'Europe offre à l'humanité entière une boussole pour lui éviter de s'égarer, de se décomposer en tribus, en communautés, en factions ou en clans.
Je pense que l'Europe a les moyens de le faire.
Mais comment l'Europe peut faire ça ?
D'abord, nous avons assisté dans les 30 dernières années à la démission de l'unique superpuissance qui est les États-Unis. Bon, politiquement, ils n'ont peut-être pas démissionné, ils interviennent un peu partout, mais moralement, ils ont démissionné. Ils ne jouent plus le rôle de boussole morale pour le reste de l'humanité. Et qui donc peut jouer ce rôle ? On ne voit personne d'autre que l'Europe, qui donne l'exemple d'une région du monde qui a joué un rôle majeur, qui a été au centre du monde, qui était à l'origine de la révolution industrielle, et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a voulu mettre derrière elle tous les conflits, tous les massacres, pour bâtir quelque chose de nouveau. Pour le faire, il aurait dû prendre les moyens de jouer ce rôle. En réalité, elle n'a pas osé franchir le pas. Elle n'a pas osé franchir le pas.
Quel est le pas qu'elle n'a pas osé franchir, l'Europe, d'après vous, Amin Malouf, pour être plus explicite ?
Devenir véritablement une puissance mondiale capable de prendre des décisions et non pas simplement de subir les décisions des autres. Je pense que ce qui est décisif dans ce cas, c'est au moment de la fondation, on aurait probablement dû créer des liens organiques entre les pays probablement, mais ça c'est mon point de vue, aller vers une forme de fédération européenne semblable aux États-Unis, avec probablement un rôle plus important pour les différents États qui ont beaucoup plus de personnalité historique et culturelle que les États américains, mais en même temps bâtir véritablement une puissance qui puisse influencer le cours des choses. Et je pense que les Européens, à cause de leurs expériences passées, notamment le passé colonial, ont été timorés dans ce domaine. Ils ont préféré se contenter d'un rôle de secondaire, de puissance...
médiatrice, plutôt.
Oui, avec une intervention principalement dans le domaine économique, en suivant ce que décident les autres, sans prendre eux-mêmes en main l'évolution. Et je crois que, même au niveau des institutions, l'Europe n'a pas osé franchir le pas pour bâtir des institutions élues. Des peuples qui ont une longue tradition démocratique ne se reconnaissent pas dans une institution qu'ils n'ont pas directement élue.
Mais est-ce qu'il y a un véritable désir d'Europe de la part des Européens ?
Je pense que ce désir aurait dû être construit, expliqué, et il ne l'a pas été suffisamment. Je pense qu'il existait à l'état embryonnaire, on ne l'a pas développé, on aurait dû notamment bâtir l'Europe sur le plan culturel. On s'est contenté de bâtir l'Europe sur le plan de économique, un peu politique, un peu au niveau de l'harmonisation des lois, mais pour bâtir véritablement une entité dans laquelle les gens se reconnaissent pleinement et qu'ils ont envie de défendre, qu'ils ont envie de promouvoir, et cela se passe sur le plan culturel. Et on n'a rien fait en réalité d'essentiel pour bâtir l'Europe culturelle.
Est-ce que vous dites à propos de l'Europe et de son avenir et de son rôle dans le monde est très important, Amin Malouf, dans le naufrage des civilisations, vous dites que c'est peut-être l'espoir d'un monde meilleur ou d'un nouvel équilibre du monde. Alors les élections européennes de la fin du mois, est-ce que vous pensez que ça va être des élections cruciales où tout le monde aura compris l'enjeu de européen ou ça sera une fois de plus des élections tout à fait normales, c'est-à-dire encore notre scrutin où chaque Européen jugera plutôt ses dirigeants, c'est-à-dire restera dans un vote plutôt national.
Je pense que tel que la campagne se déroule aujourd'hui, ça va être probablement une élection comme une autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut voter pour n'importe qui, que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a véritablement un élan porté par des forces politique pour modifier en profondeur le cours des choses. Je n'ai pas l'impression que la dérive qui se dessine aujourd'hui va s'arrêter. Or, cette dérive est extrêmement grave avec ce qui arrive en Angleterre avec le Brexit, avec la montée des forces eurosceptiques, avec le risque d'avoir d'autres pays quitter l'Union. Donc, je n'ai pas le sentiment que ces élections vont être l'occasion d'un véritable sursaut.
Le naufrage des civilisations d'Amin Malouf est édité chez Grasset. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler, Amin Malouf.
Merci.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Inédit, l'ami prodigieuse sur France Culture. L'Italie d'après-guerre dans un quartier populaire de Naples. Deux héroïnes inoubliables. La timide Elena, fascinée par l'aplomb, la révolte de la sauvage Lila. Proches, contraires, leur destin croisé. Suivons-les.
Il faut que tu continues tes études.
Mais j'ai fini.
Si au lieu de réparer les chaussures des autres, tu fabriquais des chaussures neuves.
Traduite dans le monde entier, la saga d'Elena Ferrante, d'une puissance littéraire inédite dans le paysage de la fiction, Amira Kazar dans le rôle de la narratrice.
Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie. Un point, c'est tout.
Le feuilleton, du 6 au 17 mai à 20h30 et sur franceculture.fr. Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump remet la pression sur Pékin avant des négociations commerciales à haut risque. Il annonce augmenter les droits de douane sur les produits chinois importés. Nous rejoindrons notre correspondant à Washington pour des explications. Éclairage aussi sur ce qui a pu se passer au Bénin et au Burkina Faso. 2 touristes français ont disparu. Leur guide a été retrouvé mort ce week-end. Et puis quel média pour parler d'Europe? Panorama à suivre à moins de 3 semaines des élections. Fera-t-il échouer les négociations commerciales? Selon le Wall Street Journal ce matin, en tout cas, la Chine pourrait y mettre fin après cette annonce de Donald Trump. Le président américain va relever brusquement les droits de douane sur les produits chinois dès vendredi prochain. Alors coup de colère ou coup de poker, on s'interroge, Pierre-Yves Dugas, d'autant que le président souffle le chaud et le froid.
Vendredi, le président Trump déclarait que les négociations avec la Chine se déroulaient plutôt bien. Son annonce sur Twitter d'un relèvement dès vendredi, de 10 à 25% des droits de douane qui frappent déjà 200 milliards de dollars de produits chinois, donne au contraire le signal que les négociations en cours depuis janvier sont dans l'impasse. Le deal commercial avec la Chine continue, mais trop lentement, alors qu'il cherche à renégocier. Non ! Point d'exclamation, proclame le tweet présidentiel. Donald Trump va plus loin, il promet que 325 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires seront bientôt frappés de droits de douane. Il va même jusqu'à rendre les sanctions déjà en place contre la Chine, en partie responsable des signaux très positifs récents donnés par la conjoncture américaine.
Les experts de l'ONU sur la biodiversité doivent dévoiler ce midi une évaluation mondiale sans précédent des écosystèmes sur notre planète. Cette évaluation devrait montrer le besoin urgent d'un plan pour sauver la nature poussée à la destruction par les hommes qu'elle fait vivre. Dans ce combat, la Chine veut se montrer bonne élève, d'autant qu'elle accueille l'année prochaine la conférence des parties sur le climat, Dominique André.
La COP15 sera hébergée par la Chine qui s'est fixée pour but de devenir une civilisation écologique. Selon l'IUCN, l'Organisation internationale pour la conservation de la nature, la Chine est l'un des 17 méga-pays les plus diversifiés avec 34 000 espèces de plantes et d'animaux. Sous l'impulsion de Xi Jinping, une réforme a été engagée avec la création de 2 grands ministères chargés de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pollution et l'autre des ressources naturelles. Ces décisions vont plutôt dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Plus de 2/3 des nappes phréatiques sont polluées avec une qualité de l'eau jugée mauvaise à très mauvaise selon les statistiques publiées officiellement en juin 2018. 255 espèces animales sont en danger selon des ONG chinoises, dont les grands dauphins du Yangtze, la panthère des neiges et le panda qui est loin d'être sauvé avec moins de 2000 individus à l'état sauvage. Malgré le discours politique, on est très loin de l'application des standards internationaux, explique un expert. Que ce soit au barrage des Trois Gorges ou dans les aménagement en milieu naturel, les impacts sont colossaux, affirme ce spécialiste de l'aménagement, car la Chine ne reconnaît pas la norme ERC, éviter, réduire, compenser, appliquée par l'Europe et les États-Unis pour tous les projets d'aménagement en espace naturel. Qu'est-ce que la biodiversité pour la Chine? C'est peut-être déjà à cette question que devrait répondre le futur pays hôte de la COP15.
Dominique André, la correspondante de France Culture à Pékin. Après 2 jours de violence au Proche-Orient, le Hamas et le djihad islamique annoncent ce matin accepter un cessez-le-feu avec Israël. Hier soir encore, des centaines de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël, provoquant une riposte de l'armée israélienne. Cessez-le-feu en cours, donc, a priori, depuis 3h30 tout à l'heure. Nous retrouverons notre correspondant à Jérusalem lors du journal de 7h sur France Culture. Avant cela, suite de ce journal, avec cette disparition toujours énigmatique, deux touristes français ont disparu au Bénin la semaine dernière. Samedi, un corps a été retrouvé au Burkina Faso voisin et l'on sait depuis hier soir qu'il s'agit bien du guide des deux Français, Éric Biegala.
Le corps retrouvé samedi avait été dégradé par les charognards au point de le rendre visuellement inidentifiable. C'est grâce à ses effets personnels que la famille du guide a pu l'identifier hier. Et c'est sans doute l'endroit où a été découvert son corps qui est le plus significatif. Sur les rives béninoises de la Pendjari, la rivière qui marque la frontière entre le Bénin au sud et le Burkina Faso au nord. Une présence qui semble indiquer que les deux Français ont pu passer ou être emmenés au Burkina. Un véhicule semblable à celui que conduisaient les trois hommes aurait également été retrouvé abandonné au Burkina Faso, ce qui pourrait accréditer la thèse d'un enlèvement. Dans cette région du Burkina, plusieurs groupes djihadistes issus d'Al-Qaïda et venus du Mali sévissent depuis 6 mois. En décembre, un couple de touristes italo-canadiens a pareillement disparu dans la même région. Leur enlèvement n'a jamais été revendiqué, mais une source sécuritaire burkinabé affirmait en mars dernier qu'ils étaient vivants, probablement détenus au Mali par les djihadistes. C'est peut-être le sort qui a été réservé aux deux enseignants français disparus mercredi. Ils auraient dû rentrer de leurs vacances africaines ce dimanche.
Laissez-nous nos CTS, nos conseillers techniques sportifs. Plusieurs athlètes ont apporté ce week-end sur les réseaux sociaux leur soutien à ces cadres d'État. Leur gestion dépend actuellement du ministère des Sports, mais elle devrait être progressivement déléguée aux fédérations sportives. Voilà ce que prévoit le projet de loi de la réforme de la fonction publique discuté la semaine prochaine. Et voici les explications de Lara Mercier.
Les CTS, conseillers techniques sportifs, sont environ 1600 en France. Fonctionnaires payés par l'État, ils jouent un rôle essentiel en détectant par exemple les jeunes talents ou en encadrant les athlètes de haut niveau. Or, depuis septembre et l'arrivée de Roxana Maracineanu au ministère des Sports, le gouvernement prévoit de transférer leurs postes aux fédérations afin d'optimiser le budget amputé de 30 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Pas de quoi rassurer le monde du sport qui craint une baisse drastique de moyens malgré les promesses du gouvernement qui assure qu'une compensation sera allouée aux fédérations sans préciser de délai. Mais vendredi, un amendement ajouté par le gouvernement et adopté en commission des lois remet le feu aux poudres. Il précise que les fonctionnaires pourront être détachés d'office dans certaines situations alors que cela était prévu sur la base du volontariat. Réaction immédiate de l'Association des directeurs techniques nationaux qui dénonce, je cite, « un amendement scélérat du gouvernement porté en catimini sans informer les députés ». Du côté du ministère, on parle d'une simple mesure de coordination qui ne concerne pas spécifiquement les CTS. Ces derniers ont en tout cas reçu le soutien de plusieurs grands noms du sport, parmi lesquels Jimmy Vico ou Kevin Mayer, qui rappellent le rôle essentiel de ces cadres techniques, sans qui ils ne seraient jamais parvenus au plus haut niveau. Les athlètes font aussi part de leur inquiétude pour l'avenir du sport français, car dès la rentrée prochaine, les CTS partant à la retraite ne seront plus remplacés, ce qui devrait faire baisser leur nombre de 25% d'ici 2024. Une situation préoccupante à 1 an des JO de Tokyo et à 5 de ceux de Paris.
Quand le gouvernement souhaite nouer une nouvelle relation avec les partenaires sociaux, il les invite ce matin à Matignon, syndicats, associations d'élus, acteurs associatifs. Le cabinet du Premier ministre reconnaît un changement de méthode envers les partenaires sociaux avec cette réunion qui sera consacrée à l'emploi, aux transitions écologiques et numériques. La politique encore et les élections européennes qui auront lieu dans moins de 3 semaines. Seuls 40% des Français ont l'intention de participer à ce scrutin. Voilà ce que dit notre sondage Ipsos Sopra Steria réalisé avant la publication ce week-end au journal officiel des 33 listes validées par le ministère de l'Intérieur. Le Rassemblement national arriverait légèrement en tête devant la liste de la majorité. Les européennes et les médias, ces élections seront-elles suffisamment couvertes, suffisamment expliquées? Pour France Culture, Laura Dullier s'est penchée sur les médias d'actualité européenne. Alors oui, ils existent, mais ils peinent à atteindre le grand public, Laura.
On ne peut pas dire qu'il n'existe pas de médias européens. Il y a le réseau Euractiv, un média en ligne disponible gratuitement en 12 langues. Il y a le journal Politico, arrivé en 2015 à Bruxelles et dont la version en ligne est également gratuite. En France, il y a aussi Contexte, qui traite les politiques publiques françaises et européennes. Mais tout ça, ce sont des médias destinés aux élites politiques, qu'elles soient à Bruxelles, Paris ou ailleurs. Christophe Leclerc, fondateur du réseau Euractiv.
L'espace public européen n'existe pas encore. Je pense que la presse est très frileuse. vertueuse d'une part. Les dirigeants des médias sont avant tout tournés vers leur gouvernement de référence. Il n'y a pas encore de presse européenne et je ne confonds pas le petit milieu des médias spécialisés comme Euractiv avec ce qui devrait être une presse européenne.
Alors comment faire pour intéresser le grand public à l'Europe? Même si certains médias européens essayent en étant gratuits par exemple, d'autres raccrochent carrément les questions européennes à l'information locale. C'est le cas de Radio, une radio locale créée il y a 12 ans à Nantes et qui se déploie peu à peu dans plusieurs villes de France. Simon Marty est le coordinateur des rédactions.
On ne peut pas traiter un sujet d'actualité sans le mettre à la sauce européenne. Ça veut dire que concrètement, si on prend une thématique qui touche notre territoire, on va aller voir dans d'autres pays européens, est-ce que c'est un problème qu'ils ont déjà rencontré? Si oui, comment ils ont pu le solutionner? On est toujours en train de rajouter une autre strate, une autre couche d'information pour venir enrichir l'information de base.
Le tout dans un contexte où l'Europe semble toujours très éloignée des électeurs. L'abstention en France devrait se situer autour de 60% le 26 mai prochain.
Les médias et l'Europe, c'est un dossier complet des témoignages en longueur à retrouver sur notre site franceculture.fr. Calme et fraîcheur sont au menu de la météo du jour si quelques averses pourraient traverser les Hauts-de-France. Le ciel restera lumineux dans l'ensemble. Il fait 7 degrés ce matin à Clermont-Ferrand, 10 à Lille, 11 degrés à Paris, 15 à Perpignan. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
À 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées dans la droite ligne ce matin du journal d'actualité puisque Jacques, vous vous penchez sur la campagne européenne qui a peiné à démarrer.
Oui. Alors le record enregistré avec 33 listes en présence suffira-t-il à réveiller l'intérêt des électeurs qui s'avère donc encore un peu plus faible qu'au dernier scrutin? Devenue un enjeu en elle-même à l'échelle nationale comme au niveau européen, la participation n'a pas cessé de baisser depuis les premières élections européennes de 1979 où elle s'élevait à 61%. Aujourd'hui, elle dépasserait à peine 40% dans notre pays, un chiffre et une évolution à peu près similaires dans l'ensemble de l'Union européenne. À 3 semaines du scrutin, les enquêtes d'opinion ne laissent guère présager un quelconque rebond, observe Patrick Roger dans Le Monde. Peut-être ajoute-t-il, le retour à une liste unique dans un contexte social et politique tendu pourrait-il entraîner un sursaut électoral? Sur le site du quotidien, la politiste belge Florence Delmotte évoque le sentiment relatif d'appartenance des Européens à la communauté qu'ils reconduisent tous les 5 ans. Dans l'Eurobaromètre, publié en novembre 2018, il apparaît que dans l'ensemble des États membres, une majorité des sondés se sentent citoyens de l'Union, mais elle relève également que le même sondage révèle que moins de la moitié des personnes interrogées estiment que leur voix compte dans l'Union européenne. D'où sa conclusion, appartenir à l'Europe, point d'interrogation, il est sans doute plus essentiel que les citoyens prennent conscience que l'Union européenne leur appartient, qu'ils se l'approprient. Le politologue bulgare Ivan Krastev cite quant à lui une étude de la Fondation Bertelsmann réalisée dans les 28 pays de l'Union. 67% des Européens estiment que c'était mieux avant. Le niveau de nostalgie est plus ou moins équivalent dans toutes les classes d'âge. Seule la période de référence diffère selon les pays et les générations. L'année 1989 fait consensus quand les espoirs à l'Est comme à l'Ouest étaient immenses. L'Europe s'est construite dans la peur de son passé, des deux guerres mondiales. Elle se met à avoir peur de l'avenir. Or, souligne-t-il, la nostalgie profite aux partis d'extrême droite, lesquels ne sont plus au clair à l'égard de l'Europe. Pour le site de l'hebdomadaire Le Point, Emmanuel Beretta a étudié le programme de Marine Le Pen et sa fiction d'une Europe des coopérations librement consenties. Par exemple, un État qui voudrait protéger les rentes des entreprises nationales pourrait décréter que telle directive ne lui convient pas et renoncer à l'appliquer, ce qui pourrait conduire un État voisin, se considérant lésé, à renoncer à appliquer une autre directive favorisant son concurrent. Pour les consommateurs comme pour l'innovation industrielle, le résultat pourrait s'avérer à somme nulle, les prix des biens et services repartiraient à la hausse, tout comme les marges patronales. La confusion règne également dans les cibles que s'est choisi le Rassemblement national, notamment la Commission européenne, accusée de concentrer trop de pouvoir, d'où la proposition lepéniste de redonner l'initiative législative au Conseil européen. constituée par les chefs d'État et de gouvernement. Ses conclusions, faut-il le rappeler, donnent instruction à la Commission de préparer une législation. Agiter le chiffon rouge des commissaires européens revient donc à ignorer les mécanismes de la décision dans l'architecture politique de l'Union européenne, dans le but vraisemblablement d'enfumer les électeurs et de reporter, sine die, toute forme de débat sérieux sur le fonctionnement des institutions européennes et leur caractère démocratique. La fragile assise du pouvoir présidentiel en France, révélée par la révolte des Gilets jaunes, la double crise constitutionnelle au Royaume-Uni qui illustre la tension entre expression populaire et Parlement, ainsi que les impasses d'une sortie européenne en sauvegardant l'intégralité territoriale, l'arrivée au pouvoir d'une coalition anti-système en Italie, la brèche percée dans le consensus de l'après-guerre par l'AFD en Allemagne, ainsi que l'encouragement inédit depuis la Maison Blanche des partis d'extrême droite en Europe, tout cela constitue la nouvelle donne de ce qu'il est encore convenu d'appeler la construction européenne. C'est le constat établi par Luc Van Middelaar dans la discussion ouverte par la revue Le Débat à l'occasion de la parution de son dernier livre intitulé « Quand l'Europe improvise ». Le conseiller du président flamand du Conseil européen Van Rompuy, de 2010 à 2014, y déplore le passage en Europe d'une politique de la règle à une politique de l'événement. Et à propos de sa référence à Machiavel, il souligne que ce n'est pas tant à l'auteur du Prince qu'il pensait qu'aux patriotes républicains des discours, ceux qui blâment les dissensions continuelles des grands et du peuple me paraissent désapprouver les causes mêmes qui conservèrent la liberté de Rome, car ils prêtent plus d'attention aux cris et aux rumeurs qu'aux effets salutaires qu'elles produisaient. Le débat est ouvert. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Bénin.
Et le Bénin sous pression sécuritaire dans le Nord, on va en reparler, qui sort tout juste aussi d'une semaine de tensions politiques inédites après des législatives marquées par une forte abstention et des manifestations réprimées par des tirs à balles réelles. 7 morts dans un des pays modèles de démocratie en Afrique de l'Ouest. Alors, dérive d'un homme, le président Patrice Talon, ou bien colère d'un peuple dans ce qu'on appelait le quartier latin de l'Afrique à l'époque. Est-ce déjà la fin de la concorde béninoise? On voit ça avec vous, Jean-Claude Félix Tshikaya. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous êtes chercheur à l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. D'abord, quelques mots de la crise politique. Il y a eu des législatives donc avec 2 partis sur 7 qui se sont présentés, autorisés justement à se présenter. Manifestations, des opposants sous pression, 77% des électeurs restés chez eux. D'abord, c'est tout à fait inédit quand même, cette situation dans l'histoire du Bénin.
C'est inédit, c'est une réponse cinglante, citoyenne, politique et du coup démocratique de la part du peuple béninois. On regarde du chiffre, hein, 77%, c'est une abstention massive, donc une désaffection populaire des Béninois, mais c'est surtout une opposition populaire à cette réforme et à ce maintien de ce scrutin qui n'a rien de démocratique et qui transcende pas seulement l'opposition mais tous les Béninois, parce que 77%, cela veut dire que même les partisans de Monsieur Talon et des partis qui sont quand même, qui sont donc ces partis frères et dévoués à Monsieur Talon, le bloc républicain et l'Union progressiste, qui se partagent maintenant un parlement qui va être un parlement entre amis et entre alliés, donc qui retire complètement la substance démocratique du Parlement. C'est une opposition populaire assez formidable et remarquable. C'est encore un autre mode opératoire d'un autre pays africain, l'Algérie un peu plus haut, le Soudan pas très loin, où il y a des modes opératoires de résistance à des pouvoirs qui sont qui vont vers une dérive autoritaire ou une démocrature, où le peuple, pour qu'il y ait de moins de pertes de vie et de blessés, réfléchissent encore plus à une stratégie d'opposition.
Oui, alors qu'on comprenne bien ce qui s'est passé quand même, vous avez évoqué cette réforme, c'est la réforme du code électoral qui était portée par Patrice Talon, mais qu'il n'avait pas décidé lui-même, hein, dont il a hérité. Une réforme qui amène à effectivement valider 2 partis seulement sur les 7 dossiers qui ont été présentés. Comment ça se fait qu'on ait des conditions si restrictives restrictives?
Mais c'est des conditions restrictives. Il faut un peu se plonger depuis que Monsieur Talon est arrivé donc au pouvoir avec, il a rattrapé un retard qu'il avait sur son poursuivant. En tout cas, il est arrivé au pouvoir avec entre guillemets le quitus de 200 partis pour 15 millions de Béninois, 5 millions d'électeurs. Donc il y avait de son point de vue et du point de vue de la classe politique, tout parti confondu, 200 partis, c'est beaucoup trop
un prolifique, vrai foisonnement, ouais.
Un vrai foisonnement, mais qui peut s'expliquer parce que c'est 3 décennies de démocratie après une conférence nationale qui avait été donc jugée exemplaire et qui a été repris par plusieurs pays africains, mais 200 partis donc, mais à l'intérieur de ces réformes, cette réforme est inique. Il y a des iniquités, notamment sur le plan financier. Nous sommes passés de 8 millions de CFA à maintenant 200 millions de CFA, ce qui fait à peu près 300 millions d'euros. Donc, il obligeait donc les partis
300 000 euros et pour
300 000 euros, ouais. Excusez-moi. Donc à des coalitions, donc les partis se mettent ensemble, mais il y a de véritables oppositions, et c'était quand même une prime à la finance, une prime à l'économie. Si vous n'avez pas d'argent, eh ben vous ne pouvez pas donc vous positionner, notamment pour les législatives, ce qui obère la démocratie, obère.
Oui, ce qui fait que certains opposants ont accusé cette réforme de vouloir promouvoir une aristocratie financière en quelque sorte. Alors, il y a eu également des dénonciations de la part d'ONG et d'Amnesty International d'arrestations arbitraires d'opposants et journalistes ces derniers mois. Les manifestations, on l'a vu, qui ont été réprimées pour une partie à balles réelles, même si le ministre de l'Intérieur a affirmé que c'était des éléments, j'ai plus la citation exacte, mais enfin c'était des actes contre aux ordres qui avaient été donnés. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce président Talon, élu il y a 2 ans, donc businessman, premier homme d'affaires d'ailleurs, élu président en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il est en train de verrouiller ou est-ce qu'il va trop vite, disons, dans sa volonté de réforme et de réformer ce paysage politique?
Alors, son point de vue, en tout cas son slogan premier, c'était la modernisation du Bénin et aller très vite. Donc avec son côté homme d'affaires, une des fortunes béninoises, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest et même de tout le continent, il croule sous l'argent, ce qui n'est pas une pathologie. Sauf que nous sommes dans un pays où il y a un taux de croissance de 6-8%, donc assez remarquable, mais la pauvreté, la question sociale sont là. Les conditions de vie des Béninois tous les jours ne s'améliorent pas, même s'il y a eu des réformes assez intéressantes de sa part, mais tout de suite, il a verrouillé. Là, les législatives ne sont qu'un point d'orgue au verrouillage non démocratique du Bénin. Donc les journalistes en ont pris aussi pour leur grade, hein. Les restrictions des libertés d'expression, les intimidations n'ont fait que se multiplier et se conjuguer. Pareil pour les oppositions. Donc il y a eu un appel, même la communauté internationale, hein, je parle de l'Union africaine, des autres chancelleries africaines, mais aussi au-delà, ont essayé de le faire revenir à la raison démocratique, et il est resté jonché haut sur ses talons d'un narcissisme. Il a l'impression que le Bénin est une entreprise qui peut mener d'une main de fer. Mais non, c'est un pays qui est jaloux de sa démocratie, ouais. Et les Béninois lui ont répondu d'une manière spectaculaire.
Et pourtant, un président qui plaisait, hein, et qui plaît sans doute toujours à la communauté internationale, à une partie. La Banque mondiale a octroyé un prêt de 500 millions de dollars au Bénin. Il y a eu cette visite chez Emmanuel Macron, enfin à l'Élysée, récemment, une visite à François Hollande en 2016, une visite à Emmanuel Macron, 5 projets lancés avec la France. Est-ce que Patrice Talon, qui n'a sans doute pas voulu cette crise politique, est capable de la résoudre? Comment faire baisser la tension à partir du moment où cette élection n'a pas été annulée, comme le demandaient les partis politiques
d'opposition? Non, elle n'a pas été annulée. L'annuler aurait pu donc entraver la constitution du Bénin, mais donc il y avait d'autres solutions en termes de droit. Il a maintenu. Il y a eu donc 7 morts, des blessés. Le calme semble-t-il, est revenu, mais pas dans les consciences des Béninois. C'est un pays très jeune, donc ça fait 30 ans qu'il y a une démocratie. La peur est quand même au ventre et dans les esprits béninois. Beaucoup veulent qu'il y ait une réunion de concorde civile et qu'on revienne pas seulement à un esprit démocratique, mais à une démocratie effective et remettre en cause ces législatives, cette assemblée nationale qui n'aura plus qu'une assemblée nationale en termes de nom, mais pas dans l'effectivité. Et le fait qu'ils veulent être un président moderne, alors qu'on revient à une attitude que les Béninois avaient connue au temps de Mathieu Kérékou, qui était donc un véritable tyran, et qui aujourd'hui, même Monsieur Yayi Boni, qui donc a laissé la place à Monsieur Talon, et ben Monsieur Yayi Boni ont eu, avec Monsieur Soglo, les deux anciens présidents, ont eu des mots assez forts, parfois même un ton martial, pour essayer de dissuader Monsieur Talon de maintenir ces élections. Mais rien n'a fait, et Monsieur Talon est resté figé droit dans ses bottes.
Bon, ben à voir si effectivement il amènera lui aussi sa conférence nationale, comme l'avait fait Mathieu Kérékou à l'époque, celui qu'on appelait le caméléon. Dernière chose, la situation sécuritaire dans le Nord. On est dans le parc national de la Penjari, qui est intéressant relativement au mandat Talon, parce que c'est un des parcs choisis pour le développement des méga projets touristiques. Qu'est-ce que ça indique, cet enlèvement de Français? Une zone laissée en déshérence, comme beaucoup d'autres zones frontières dans la région, un manque de sécurité, une négligence?
Oui, je crois qu'il n'a pas pris au sérieux, comme certaines chancelleries africaines, de l'expansion de l'EI, de Boko Haram et de tout ce qui concerne les bandes mafieuses et liées au terrorisme et au redéploiement de l'État islamique et la concurrence qui est entre l'État islamique et Al-Qaïda Afrique. Et le Bénin et le nord du Bénin est donc aux prises avec une insécurité grandissante sur le plan terroriste. Ça descend jusqu'en Afrique centrale. Il y a 2 ans, j'avais fait donc un rapport sur les risques terroristes, même en RDC. Il y a eu donc un attentat en RDC revendiqué par l'EI. Donc on voit bien qu'un redéploiement sur le continent africain qui inquiète pas seulement le Bénin. Et d'ailleurs, le fait de désunir une population qui était jalouse de sa démocratie, le fait de désunir dans un contexte socio-économique et géopolitique et géostratégique de cette façon-là, fragilise de manière invraisemblable et volontaire un pays qui a besoin de concorde civile, mais aussi d'une sûreté grandissante.
Bon, bah écoutez, à suivre le Bénin toujours, ce risque sécuritaire et crise politique. Merci beaucoup pour vos explications, okay. Jean-Claude Félix-Caya, chercheur à l'IPSE, Institut de prospective et de sécurité en Europe.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Le colonel des Zouaves d'Olivier Cadiot, mise en scène par Ludovic Lagarde.
Il est 18h45, le dîner est servi dans 105 minutes.
Robinson, un majordome zélé, construit un système ingénieux pour tenter d'améliorer son service. Seul en scène, Laurent Poitrenaud fait naître le monde intérieur délirant de Robinson. Un moment de théâtre drôle et angoissant.
Apportez-moi un verre.
Le colonel des Zouaves, du 7 au 11 mai à la Comédie, Centre dramatique de Reims. Et samedi 11 mai, une journée trilogie pour découvrir la suite du colonel des Zouaves, un Major d'été et Providence. Un partenariat France Culture.
Et la suite maintenant, c'est tout de suite à 6h57 sur France Culture. Ce sont les matins avec Guillaume Bernard.
Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Guillaume,
bonjour à toutes et à tous.
Alors si vous écoutez de la musique, il paraît que c'est que vous écoutez PNL.
Et oui, et c'est l'une des conséquences des services de musique en ligne, Spotify et autres Deezer, des services qui étaient censés, souvenez-vous Xavier, révolutionner la musique et qui l'ont révolutionné en accentuant finalement la situation antérieure à leur apparition. Alors en d'autres termes, il y a plus encore une prime aux gagnants. Les numéros 1 des hit parades dominent le marché de manière encore plus écrasante. Je m'explique. Lorsqu'Internet s'est imposé comme vecteur principal pour la découverte et l'écoute de musique, Internet était censé apporter de la diversité dans l'univers de la musique. Cette diversité avait même un nom, on appelait ça la théorie de la longue traîne. En d'autres termes, l'idée était la suivante. Il y aurait aux côtés de hit-parades, de blockbusters, des niches qu'Internet allait rendre plus visibles. Et il est vrai que si vous vous intéressez au chant serbo-croate, jadis pour vous adonner à votre passion, c'était pas facile. Aujourd'hui, avec Internet, en deux clics, vous pouvez suivre l'actualité du chant serbo-croate. Du coup, on promettait un bel avenir aux différents chants serbo-croates. Internet devait permettre à mille fleurs de s'épanouir, ce qu'on appelait des marchés de singularité. Le principe était simple, une offre pléthorique, mais des mécanismes permettant de s'y retrouver dans ces différentes offres. Et ben, deux décennies après, il faut bien se rendre compte que ces marchés de singularité n'ont absolument pas rempli leurs promesses. Si j'en crois un article du journal Le Monde, Spotify a annoncé avoir franchi la barre des 100 millions d'abonnés dans le monde. Et en France, le hit parade de Spotify, qui donne le la en matière de consommation musicale, offre sur 100 titres plus de 80 titres de rap. Et en premier lieu, les morceaux de PNL. En somme, grâce à Internet, vous pouvez écouter ce que vous voulez pourvu que ce soit PNL. Alors, la situation est-elle différente de ce qu'elle était auparavant, lorsqu'on pouvait écouter ce que l'on voulait pourvu que ce soit, je ne sais pas moi, les Beatles, les Rolling Stones, les Clash? Eh bien, il faudrait des chiffres précis pour y répondre, mais ce qui est certain, c'est que la diversité attendue n'est pas là. Une fois de plus, Internet n'a pas tenu ses promesses, car comme l'illustre l'exemple de la musique en ligne, Internet n'est pas seulement un canal de distribution de la musique, c'est l'alliance de deux M, un média et un magasin. Alors certes, le magasin est infini, mais ses ventes, en réalité, sont bien limitées.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Les élections européennes approchent et ce matin, eh bien, ce sera une matinale politique. Vous entendrez successivement Thierry Mariani pour le Rassemblement National, Marie Toussaint, candidate d'Europe Écologie Les Verts, et enfin Benoît Hamon, candidat de Génération. Tout cela débutera aux environs de 7h40 avec des temps de parole en vigueur du fait des calculs du CSA. Il est 7h sur France Culture.